Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Renault s'apprête à écarter son PDG Carlos Ghosn. Décision ce soir. Au Japon, les révélations se multiplient sur le train de vie du patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. La correspondance de Karine Nishimura dans un instant. Un général russe favori pour prendre la présidence d'Interpol. Les Américains et les Ukrainiens se mobilisent contre la candidature d'Alexandre Prokopchouk. Claude Bruyot nous appellera de Moscou. Le dossier de la rédaction consacré ce soir à un tabou en Israël, à Jérusalem. De plus en plus de Palestiniens vendent leur maison à des colons israéliens. Le reportage à suivre d'Étienne Monin. En France, la crise des gilets jaunes a animé la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée. Les oppositions de droite comme de gauche ont multiplié les critiques contre Édouard Philippe, une séance suivie par Maureen Suignard. Le gouvernement qui veut réduire les crédits d'impôt pour le spectacle vivant et notamment les spectacles d'humoristes. Les professionnels se mobilisent contre un amendement voté à l'Assemblée. Les explications de Cécile de Kervas-Doué dans cette édition. Le conseil d'administration de Renault se réunit ce soir pour statuer sur le sort de Carlos Ghosn, son PDG actuellement en garde à vue au Japon. L'État français, actionnaire minoritaire de la marque aux losanges, veut tourner la page. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, souhaite la mise en place d'une gouvernance intérimaire puisque, je cite, Monsieur Ghosn est aujourd'hui empêché de diriger l'entreprise. Au Japon, les conseils d'administration de Nissan et Mitsubishi s'apprêtent à démettre Carlos Ghosn de ses fonctions dès jeudi pour Nissan. Car les soupçons de fraude fiscale qui pèsent sur le patron de l'Alliance ne passent pas dans l'opinion publique japonaise. Karine Nishimura nous appelle de Tokyo.
C'est le train de vie de Carlos Ghosn qui alimente les révélations apparaissant une à une dans la presse japonaise depuis son arrestation. Elles sont à prendre avec précaution, mais elles dressent un portrait de moins en moins sympathique du sauveteur de Nissan. D'après les principaux médias japonais, qui ne citent pas leurs sources, une filiale étrangère de Nissan aurait acheté au moins 4 résidences de luxe dans plusieurs pays au seul profit de Carlos Ghosn. Ce dernier aurait en outre empoché de façon indue une partie des cachets qui auraient dû revenir à d'autres administrateurs de Nissan. Il aurait aussi utilisé de façon abusive le jet privé mis à sa disposition pour ses voyages professionnels. L'enquête officielle ne porte pas pour le moment sur tous ces aspects, mais ces soupçons découlent des investigations menées en interne par Nissan, qui a décidé de coopérer avec la justice.
Karine Nishimura, notre correspondante au Japon, et nous reviendrons sur l'affaire Carlos Ghosn à 22h avec l'invité du journal Flavien Neuvy, directeur de l'observatoire CTLM de l'automobile. La Russie va-t-elle prendre le contrôle d'Interpol? En tout cas, c'est le candidat russe Alexandre Prokopchouk qui part favori pour succéder au chinois Meng Hongwei à la présidence de l'organisation. Le vote aura lieu demain à Dubaï où se tient l'Assemblée Générale d'Interpol. Alors bien sûr, le poste de président est plus honorifique qu'opérationnel, mais la perspective de voir Interpol dirigé par un général russe suscite une levée de boucliers international. À Washington, des sénateurs américains appellent les délégués d'Interpol à écarter et le russe. À Kiev, le gouvernement ukrainien menace de se retirer de l'organisation si Prokopchouk était élu. Des critiques très mal reçues à Moscou, où l'on dénonce une politisation du scrutin. Claude Bruyot.
Il connaît par cœur les règles d'usage des fameuses notices rouges d'Interpol, les mandats d'arrêt internationaux, et ne les utiliserait donc jamais à des fins politiques. Alexander Prokopchouk est un général de police exemplaire, au dire du ministère russe de l'Intérieur, qui a pris dès hier sa défense et rappelé tout le bénéfice que pouvait en tirer aujourd'hui la communauté policière internationale. Les autorités russes de rappeler les récents états de service irréprochables, selon elles, du général Prokopchouk dans sa fonction de vice-président d'Interpol. Un homme qui connaît déjà donc par cœur les rouages de l'organisation et dont le seul tort serait aux yeux encore de ses défenseurs d'être simplement russe dans un contexte relationnel très dégradé entre Moscou et Washington. Dès hier, le Kremlin avait beau jeu de qualifier l'adresse publique de parlementaires américains opposé à la candidature du général Prokopchouk à la tête d'Interpol, de tentative, je cite, « d'intervention dans la gouvernance d'une institution internationale, laquelle doit rester absolument indépendante ». Fin de citation.
Claude Debruyot, notre correspondant en Russie. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir en Israël. La semaine dernière, le candidat nationaliste religieux Moshe Leon était élu maire de Jérusalem à une faible majorité. Un scrutin qui n'arrange pas les affaires des Palestiniens. Ils sont plus de 300 000 dans la partie est de la ville, mais ils perdent du terrain chaque jour, privés de relais politiques ou sociaux. Et certains n'hésitent plus à vendre leur maison à des organisations de colons israéliens, un tabou qui déchire la société palestinienne. Le reportage à Jérusalem d'Étienne Monin.
Tailleur Misero est coiffeur dans la vieille ville de Jérusalem. Son commerce est planté à 300 mètres de la mosquée Al-Aqsa. Il est surtout en face d'une vieille maison devenue début octobre un objet vénéneux dans la société palestinienne. Cette maison a été vendue à des colons qui se sont installés en douceur.
Ils sont entrés avec les clés. Ça me fait du mal de voir une maison qui appartient à l'histoire de la vieille ville, qui appartient à une famille de Jérusalem, de l'avoir vendue de cette façon. J'espère que Dieu va punir ceux qui l'ont vendue.
À Jérusalem, la vente d'une maison palestinienne à des colons israéliens est considérée comme une trahison. Abdellah Elkam est un ancien militant politique reconverti dans la justice transitionnelle autour de Jérusalem.
Vendre sa maison dans Jérusalem, ça revient à vendre la ville de Jérusalem en entier aux Israéliens. Notre devoir à nous, c'est d'empêcher ce type de vente. On veut s'opposer au pouvoir ici qui agit contre l'intérêt des Palestiniens.
Par ricochet à Jérusalem, quand une famille est simplement soupçonnée d'avoir vendu sa maison aux colons, elle perd son assise sociale. Cette descente aux enfers, Adib Joudeh la vit depuis plusieurs semaines. C'est lui qui a vendu la maison de la vieille ville. C'est devenu une tâche indélébile alors qu'il appartient à une importante famille qui a la responsabilité des clés du Saint-Sépulcre.
Les gens se contentent de suivre la rumeur. C'est devenu la version officielle dans les familles. Mais personne ne sait rien sur ce qui s'est passé. Personne n'a voulu voir mes documents. Au tribunal, le juge aurait regardé mes preuves, mais pas ici. Les gens ont procédé à mon exécution sans prêter attention ni aux témoignages, ni aux preuves.
Parce que Adib Joudeh n'a pas vendu la maison aux colons. C'est sa version. Il l'a vendue à un autre Palestinien soupçonné d'avoir passé le Rubicon. Pour démêler les fils et pour l'exemple, un tribunal populaire a été mis sur pied. Abdallah Elkam l'a convoqué dans sa cour. L'audience a été retransmise en direct sur Facebook. Illustration de l'état de faillite institutionnel des Palestiniens, géré à l'échelon de la tribu, reconnaît Abdallah Elkam.
Malheureusement, les tribus sont devenues, malgré elles, la dernière ligne de défense de notre projet national.
L'état de la société palestinienne à Jérusalem est le résultat d'une occupation qui dure depuis 50 ans. Elle a figé le développement. Les dernières structures sociales apparentes sont maintenant religieuses ou familiales.
Étienne Monin, notre correspondant à Jérusalem. Il y a 21 ans, le traité d'Ottawa interdisait l'utilisation des mines antipersonnelles dans le monde. Et pourtant, ces mines continuent à tuer aux quatre coins de la planète. 2793 morts l'an dernier, sur un total de 7239 victimes. Des chiffres en augmentation pour la troisième année consécutive. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
Et selon l'Observatoire des mines, les civils sont les plus touchés.
En effet, partout dans le monde, ces accidents post-guerre frappent à 87% des citoyens civils, dont 47% d'enfants, soit en 2017, 2452 mineurs touchés par des mines ou restes d'explosifs. La hausse du nombre de personnes qui sont tuées ou gravement blessées par ces armes à retardement provient d'abord des pays en conflit de longue date. Ainsi, en 2017, 2300 victimes ont été recensées en Afghanistan, 1906 personnes en Syrie, 429 en Ukraine, 330 en Irak. Les mines et les munitions antipersonnelles se retrouvent sur les routes, dans les champs, dans le désert, sur les sentiers, le long ou à côté d'écoles et en explosant n'importe quand, plongent dans la souffrance humaine quiconque marche dans une zone minée. En 2017, vous l'avez dit, ces armes ont tué 2793 personnes et en ont blessé 4331 autres. 21 ans après l'adoption du traité d'Ottawa, convention qui interdit l'usage, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnelles et leur distribution, 33 pays ne l'ont toujours pas ratifié, de Cuba à la Russie, en passant par la Chine, l'Égypte, le Pakistan, Israël, l'Inde, le Maroc. 2900 93 victimes en 2014, presque le double l'an dernier, 7239. Handicap International s'alarme de la baisse de l'aide internationale d'assistance qui ne représente aujourd'hui que 2% de l'enveloppe totale du financement international de l'action contre les mines. L'ONG, prix Nobel de la paix, demande aux États qui se réuniront du 26 au 30 novembre à Genève d'agir.
Nadine Epstein, merci. Nouvel attentat en Afghanistan. Au moins 40 morts et une soixantaine de blessés aujourd'hui à Kaboul dans une attaque suicide contre un rassemblement d'ouléma. Ces dignitaires religieux étaient réunis dans une salle de la capitale afghane pour célébrer la naissance du prophète Mahomet. Attentat non revendiqué pour l'instant, mais en Afghanistan, c'est l'État islamique qui est le plus souvent à l'origine des attaques kamikazes. En France, le mouvement des Gilets jaunes continue aujourd'hui, même si la mobilisation n'a pas la même ampleur que samedi, lorsque le ministère de l'Intérieur avait recensé 290 000 manifestants. Aucun chiffre disponible ce soir, mais de nombreux blocages persistent un peu partout dans l'Hexagone. La société Vinci fait par exemple l'état d'une dizaine d'autoroutes affectées par des barrages filtrants. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé ce matin, je cite, « la dérive totale des manifestations en raison de la radicalisation d'une partie des Gilets jaunes. » Et la polémique est arrivée à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement. Bonsoir Maureen Suignard.
Bonsoir.
L'opposition de droite comme de gauche attaque le gouvernement qui lui reste inflexible.
Dès les premières questions au gouvernement, c'est bien le mouvement des Gilets jaunes qui est au cœur des débats. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe France Insoumise.
Il n'est pas juste, monsieur le Premier ministre, de prendre 4 milliards à des gens qui n'ont pas d'alternative au déplacement en voiture par une surtaxe sur les carburants quand, dans le même moment, vous donnez exactement la même somme en supprimant l'impôt sur la fortune à des familles de riches qui n'en ont pas besoin et qui ne vous l'ont jamais demandé.
La France Insoumise, comme le Rassemblement National, demande la baisse des taxes sur les carburants. Mais le Premier ministre n'entend pas revenir sur cette mesure et il l'a répété.
Nous respectons le programme qui a été proposé aux Français. Vous qui êtes un amoureux de la République, eh bien je pense que vous pouvez considérer avec moi que tenir, sans zigzaguer, une promesse qui a été faite aux Français, c'est tout à fait sain pour la démocratie. Je vous remercie.
Tout l'enjeu pour le gouvernement est désormais de faire baisser la tension. Les députés et La République En Marche assurent que la colère exprimée par les Gilets jaunes a été entendue. Mathieu Orphelin, député LREM du Maine-et-Loire, soutient le gouvernement, mais le pousse à faire des gestes supplémentaires.
Je continue à penser qu'on doit mieux et doit continuer à mieux accompagner les Français dans cette transition écologique. Le gouvernement l'a fait avec des mesures nouvelles pour accompagner les changements de mobilité, acheter des véhicules moins polluants, etc. Il faut que le gouvernement puisse aussi accélérer sur les travaux de rénovation énergétique à la maison et annoncer là aussi des mesures radicales dans les prochains jours.
Le député qui demande à ce que le dialogue soit rétabli entre les syndicats, les associations, les élus locaux et les Gilets jaunes. Mais les propos du ministre de l'Intérieur ce matin ont de quoi attiser la colère, selon Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National.
On finit par se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il cherche, quoi. Qu'est-ce qu'il cherche, ce gouvernement? Il cherche quoi? L'explosion? Que cherche-t-il? C'est une mauvaise stratégie parce que, encore une fois, on peut, avec quelques compagnies de CRS, faire évacuer les gilets jaunes, mais on ne fera pas disparaître la colère.
Et une nouvelle journée de mobilisation qui devrait avoir lieu ce samedi est en cours de préparation.
Maureen Suignard, merci. Ce mouvement des Gilets jaunes est en train de dégénérer sur l'île de la Réunion. La nuit dernière a été marquée par une flambée de violence sur l'île avec des automobilistes raquettés et caillassés, des voitures brûlées, des commerces pillés et parfois même incendiés. Pas de victimes heureusement, mais tous les établissements scolaires sont restés fermés aujourd'hui. Et le préfet de la Réunion annonce la mise en place d'un couvre-feu sur la moitié des communes de l'île. Il sera interdit d'y circuler entre 21h et 6h du matin, au moins jusqu'à vendredi. Le gouvernement qui doit aussi affronter la colère de nombreux producteurs de spectacles. La semaine dernière, les députés de la majorité ont voté en première lecture une réforme des crédits d'impôt à la culture et le texte réduit ses avantages fiscaux pour le spectacle vivant. Les spectacles d'humour seraient carrément écartés du dispositif. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Ces crédits d'impôt visent à soutenir les artistes émergents. Ils ont été mis en place il y a 2 ans alors qu'ils existent depuis longtemps pour le cinéma. Mais aujourd'hui, les producteurs ne peuvent plus s'en passer.
Aujourd'hui, le seul élément qui n'est pas maîtrisé dans les budgets nationaux, ce sont les crédits d'impôt
culture. Et la responsabilité du gouvernement, c'est peut-être d'arrêter les dégâts sur quelque chose qui n'est plus du tout sous contrôle.
Auteur d'un rapport sur les crédits d'impôt remis cet été, Joël Giraud, que vous venez d'entendre, rapporteur La République En Marche, était très remonté la semaine dernière à l'Assemblée. En 3 ans, dit-il, le cinéma est passé de 150 à 300 millions d'euros de crédits d'impôt et le spectacle vivant de 2 à 20 millions d'euros de crédits d'impôt. D'où la décision de supprimer les spectacles d'humour du dispositif, même si c'est une catastrophe pour de nombreux producteurs comme Geneviève Girard, productrice de la société Azimut.
Lancer un artiste, de toute façon, on sait qu'on est déficitaire pour démarrer, puisque de toute façon, on va faire une résidence, on va faire une production sur Paris, on va monter la tournée. On sait que pour les petits qui démarrent, l'humour, c'est au moins 2-3 ans. Le crédit d'impôt finance 30% des dépenses. Mais pour nous, c'est très très important. Vous allez dire, mais comment vous faisiez avant le crédit d'impôt? On souffrait et on n'était pas sûr d'une année sur l'autre de pouvoir rester.
Dans ce secteur fait de multiples toutes petites entreprises privées non subventionnées, le crédit d'impôt a aussi permis d'embaucher. Aujourd'hui, le spectacle a donc le même poids économique que le cinéma en termes d'emploi et de chiffre d'affaires et pourtant il ne représente que 5% des crédits d'impôt contre 90% pour le cinéma et l'audiovisuel. Et c'est nous qui devons payer la note, s'insurge Malika Seguinot, c'est la directrice du PRODIS, le syndicat des producteurs.
Ce qui nous a particulièrement choqués la semaine dernière, c'est qu'on a eu le sentiment d'être les sacrifiés. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe rien pour le cinéma, ils n'ont pas du tout été touchés, tant mieux. Mais ce qui signifie qu'on ne nous raconte pas qu'il faille faire des efforts, que tout le monde doit contribuer. Je ne voudrais quand même pas à nouveau dire que la musique semble être le parent pauvre du ministère de la Culture, mais ce qui s'est passé la semaine dernière amène à cette conclusion.
D'autant que la majorité souhaite également revoir les critères d'attribution de ces crédits d'impôt au spectacle. Aujourd'hui, il faut que l'artiste n'ait pas joué devant plus de 12 000 personnes en 3 ans. Mais demain, il faudra qu'il ait aussi tourné dans au moins 3 lieux, ce qui exclut de fait les comédies musicales. Alors, le ministère de la Culture que j'ai joint promet aujourd'hui que les comédies musicales ne seront pas touchées, mais les députés de la commission culture de l'Assemblée ne sont pas rassurés pour autant. Frédéric Dumas affirme même qu'elle a quitté la majorité en septembre à cause de ces incohérences.
Lorsqu'on évoque le crédit d'impôt audiovisuel et cinéma, personne n'ose imaginer 2 secondes d'en extraire évidemment les comédies, par exemple. Et l'État ne décide pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est de la culture ou pas. Là, en l'occurrence, sur le spectacle vivant, on décide que l'humour où les comédies musicales ne font pas partie de ce qu'on pense devoir aider. Parce qu'en plus, effectivement, on n'exclut pas du crédit d'impôt les émissions de télé-réalité. C'est hors sol, hein.
Le texte doit maintenant faire la navette au Sénat avant de retourner à l'Assemblée début décembre.
Dossier préparé par Cécile de Kervas-Douai, merci. L'ONG Génération Future publie aujourd'hui une carte de France des pesticides. Un travail qui repose sur les données des ventes de produits phytosanitaires accessibles au public depuis 2 ans. Au départ, il y avait un fichier de plus de 700 000 lignes, difficilement interprétable par le grand public. Bonsoir Véronique Robérotte.
Bonsoir.
Génération Future en a donc fait une carte mise en ligne où il suffit de cliquer sur son département pour connaître notamment le niveau de vente de pesticides près de chez vous.
Oui, car loin de diminuer, la consommation des pesticides en France continue d'augmenter malgré l'inquiétude de la population. Les cartes détaillées de Génération Future sont donc destinées avant tout à informer les citoyens. Elles nous apprennent département par département quel volume de pesticides sont vendus et quelles catégories aussi classées cancérogènes ou peu ou pas. Et François Veillerette de Génération Future.
Si on regarde l'intensité d'utilisation, c'est-à-dire le nombre de kilos de pesticides utilisés par hectare. On a le Vaucluse qui arrive en tête, devant le Gard, la Gironde, le Var, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, etc., l'Aube, le Tarn-et-Garonne. On est dans le sud, mais après on remonte dans le Pas-de-Calais, où là on va trouver aussi des quantités importantes, plus de 5 kilos. Ce qui est intéressant, c'est de regarder après les pesticides spécifiques. Si on va regarder les pesticides qui sont suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, là, en kilos à l'hectare, c'est au contraire l'Aube qui arrive en tête, hein, devant le Tarn-et-Garonne, le Pas-de-Calais, le Vaucluse, le Gard, la Somme, l'Hérault, la Gironde, le Nord et l'Aisne. Donc on voit les départements à la fois qui produisent des pommes de terre ou de la vigne et des fruits.
La compilation de ces données est déjà disponible sur Internet. Elle sera faite chaque année, tout comme seront distribués les Glyph Awards. C'est un prix qui va récompenser donc le département le plus consommateur, récompensé entre guillemets de glyphosate, François Veillerette.
Pour réduire le glyphosate, on a un mal de chien, on s'en aperçoit, et donc on a à peu près tout essayé. Nous, on a essayé l'humour, c'est-à-dire on va récompenser les départements qui en consomment le plus, avec le secret espoir que finalement, ils n'aient pas envie l'année prochaine d'être encore récompensés et qu'ils fassent quelques efforts pour réduire la consommation de cet herbicide dangereux dans leur département. Ça montre quand même que les départements qui sont en tête, Vaucluse, Réunion, Martinique, Gironde, etc., Aube...
C'est cette année, le champion, c'est le Vaucluse.
Voilà, c'est...
Pourquoi, non ?
parce que viticole et fruits, voilà, culture, viticulture et culture de fruits. Donc, ce qu'on espère, c'est que ces chiffres vont baisser les années suivantes et on rendra compte des efforts de ces départements et de la baisse, je l'espère, des chiffres dans les années à venir. On verra.
La Chambre d'agriculture du Vaucluse va donc recevoir prochainement un faux bidon de glyphosate marqué premier prix. En fin de classement de ces Glypho Awards, il faut le dire, figurent la Lozère, la Corse du Sud, le Cantal, qui sont les départements français où l'on a le moins acheté de glyphosate l'an passé.
Véronique Robérotte, merci. Il y aura un deuxième procès Georges Tron. Le parquet général a fait appel aujourd'hui de l'acquittement du maire de Draveil, accusé de viol par deux anciennes collaboratrices. Son ex-adjointe Brigitte Gruel, également acquittée la semaine dernière, sera elle aussi rejugée. Et puis le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête préliminaire sur l'origine non identifiée de 144 000 euros de dons reçus en 2017 par La République En Marche. Cette enquête fait suite à un signalement du 12 novembre de la Commission nationale des comptes de campagne. Un mot de la météo, demain, froide et perturbée sur la moitié est et des pluies qui vont s'intensifier sur le pourtour méditerranéen. À l'ouest, le ciel alternera entre nuages et éclaircies, température minimale nombreuse gelée à l'intérieur des terres jusqu'à moins 5 degrés. De 3 à 8 degrés vers les régions littorales. Les maximales iront de 3 à 10 degrés sur la moitié nord, de 7 à 15 degrés au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.